Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour et bienvenue à tous dans Une heure en France. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Ternier. Ça a été long à se dessiner, mais la France a gagné contre les États-Unis au Japon. Bah 33-9.
33-9, quel score. Ça tombe bien, on va à La Rochelle ce midi parler d'un futur musée du rugby avec un ancien joueur du stade Rochelet avant de faire des vendanges antiques. Ça, ce sera près de Vienne, dans la vallée du Rhône. Et puis, on va découvrir une statue géante et intrigante de cigarettes à Laval.
Le premier invité du jour, c'est le président de l'association Respire, qui demande, avec une centaine d'habitants, une expertise contradictoire de la pollution à Rouen. Ce sera l'occasion de vérifier ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas après le passage de l'énorme nuage suite à l'incendie du site Seveso.
Et voilà l'actu du jour avec Simon de Faucompré.
Bonjour Simon.
Bonjour à tous.
Les policiers en ont ras-le-bol et ils le montrent dans la rue.
Une marche de la colère s'est lancée il y a une demi-heure de la place de la Bastille à Paris, direction place de la République. Marche suivie par des milliers de membres des forces de l'ordre. Ariane Grissel, vous suivez la manifestation pour France Bleu. Ce qu'on comprend, c'est que le ras-le-bol est général.
Presque toutes les organisations sont là, c'est du jamais vu depuis 20 ans avec de nombreux mots d'ordre effectivement. Donc il y a cette défense du régime spécifique de retraite, aussi bien sûr les conditions matérielles de travail. L'un des manifestants raconte avoir vu un morceau de mur de commissariat s'effondrer sur les voitures de service. Un membre de la police judiciaire estime lui que chacun de ses collègues a 500 dossiers à traiter en même temps, impossible à boucler dans les temps. Autre revendication, une évolution de carrière plus rapide. Certains réclament également plus de reconnaissance de la part de leur hiérarchie qui manifeste aussi aujourd'hui les syndicats de commissaires. Beaucoup de motifs donc, vous l'aurez compris, à cette marche de la colère, manifestation dont plusieurs organisateurs précisent qu'elle ne s'adresse pas au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, mais directement à Emmanuel Macron. Il réclame des mesures en haut lieu.
Ariane Grissel à Paris pour cette marche des policiers. Certains sont venus du Périgord, de Franche-Comté ou de la Manche pour protester aujourd'hui. Retrouvez les raisons de la colère sur francebleu.fr. Les députés vont plancher sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. 6 jours après cet impressionnant incendie, accident, l'Assemblée nationale annonce aujourd'hui la création d'une mission d'information.
Elle commencera à travailler dans 6 jours avec un objectif, faire la lumière sur les risques possibles liés à l'incendie. On sait maintenant que 5200 tonnes de produits chimiques divers ont brûlé.
Ouais, c'est ce qui est sorti d'une liste publiée hier soir par la préfecture de Seine-Maritime. Des données précises mais incomplètes. Il manque par exemple les évaluations de dioxines, des substances toxiques et polluantes. Ça va venir d'ici vendredi, promet Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique. Elle l'assure, la direction de l'usine rouennaise n'a donné sa liste qu'hier au gouvernement. L'exécutif met la pression pour récupérer des infos et fait preuve, dit-elle, d'une transparence totale. La ministre qui sera d'ailleurs auditionnée ce soir un peu avant 19h par les députés de la commission du développement durable.
Et nous recevons l'association Respire qui a demandé en justice une expertise contradictoire de la pollution avec une centaine d'habitants. Le président de Respire, après la diffusion de la liste des produits qui ont brûlé, les propos rassurants des autorités et la manifestation d'hier soir à Rouen.
Et on apprend que l'idée fait aussi son bout de chemin dans les couloirs du Sénat. Un projet de commission d'enquête a de bonnes chances d'y voir le jour prochainement. La France Insoumise condamne l'interpellation d'une des leurs. Mathilde Panot, vice-présidente du groupe à l'Assemblée, arrêtée hier en Algérie. Elle était dans le nord du pays pour rencontrer, je cite, des acteurs et actrices du mouvement populaire algérien. Selon le parti français, elle et son suppléant Mourad Takzout sont placés sous surveillance dans un hôtel de la capitale, Alger. Ils dénoncent une arrestation arbitraire. Dans le nord-ouest de Taïwan, les sauveteurs continuent leur recherche aujourd'hui.
Oui, un pont de 140 mètres de long s'est effondré sur des bateaux hier, entraînant un camion-citerne dans sa chute. 5 corps ont été retrouvés ce matin.
Oui, et on compte également 12 blessés pour l'heure.
Ils sont célèbres, ils sont plus d'une centaine et ils réclament un plan d'urgence pour sauver les hôpitaux.
Vincent Lindon, Véronique Sanson, Francis Weber et autres chanteurs, écrivains, acteurs, ils adressent une lettre ouverte au président Emmanuel Macron dans Le Parisien ce matin. Le secteur hospitalier est en crise depuis des mois. Plus de la moitié des urgences de France sont en grève. Et en fait, leurs revendications à ces célébrités sont les mêmes que les employés. Plus de lits, plus d'effectifs et plus de moyens. France Bleu, 13h04, on va retenir la victoire et rien que la victoire, Denis, de nos rugbymen français ce matin.
Une victoire avec bonus offensif, 33-9 contre les États-Unis. C'était le deuxième match des Bleus dans cette Coupe du Monde.
Ouais, en théorie donc, bah tout va bien. Mais le 15 de France n'a pas brillé, loin de là, la réaction après la rencontre du sélectionneur français Jacques Brunel.
Oui, elles sont intéressantes, mais on n'a pas respecté totalement ce qu'on voulait faire. On avait demandé de jouer dans leur dos, de ne pas jouer devant, de les obliger à reculer. On l'a fait par moment, et puis d'autres fois, c'est un peu emballé, on a perdu des ballons. Mais bon, on a 5 points, on voulait la victoire, on a 5 points. Donc bon, il nous faut par contre la prochaine... Et elle sera pas facile.
Eh oui, la prochaine, c'est dès dimanche contre les Tonga. Il faudra hausser le jeu avant, bien sûr, le choc contre l'Angleterre dans 10 jours. En attendant, vous pouvez retrouver les 5 essais des Bleus en vidéo sur francebleu.fr. Je vous dis rien, mais le deuxième de Raka serait un petit bijou de passe de Lopez.
Je confirme.
Il est pas mal.
Magnifique.
En Ligue des Champions de foot, les clubs français espèrent eux aussi ramener l'essentiel. Lille accueille Chelsea et Lyon rend visite à Leipzig sur sa pelouse. Les deux matchs sont ce soir à 21h. Et les deux formations attendent et espèrent une première victoire dans leur campagne européenne.
En espérant qu'ils fassent aussi bien que le PSG hier soir.
Espérons-le. La météo, il reste des nuages et des averses entre l'Alsace et les Pyrénées, surtout sur les reliefs. À l'arrière de cette perturbation aujourd'hui, des éclaircies assez franches sur la Manche et les Hauts-de-France. Soleil aussi en Méditerranée, mais avec attention, des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Niveau mercure, ça baisse, hein, Denis.
Ah oui, 14 degrés à Besançon et à Lille, 15 à Clermont et à Rouen, 19 à Toulouse, 23-24 sur la Côte d'Azur, 18 à La Rochelle, où nous allons parler rugby tout à l'heure. Oui, ce sera après notre passage à Rouen. À plus tard, Simon.
À plus tard, Denis.
De Faucon Près. À bientôt.
À bientôt.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu aime le nouveau Alain Souchon, presque.
C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin.
Presque, le nouveau Alain Souchon. Un coup de cœur France Bleu.
Et retour à Rouen dans une heure en France avec le président de l'association Respire, l'association de citoyens pour la préservation et l'amélioration de la qualité de l'air. Bonjour Olivier Blond.
Bonjour.
Vous avez déposé un recours en justice pour demander une expertise contradictoire de la pollution. Vous ne faites pas confiance aux informations et chiffres des autorités ?
C'est pas tellement le problème de la confiance que le problème de l'incomplétude de ces données. Il y a beaucoup de trous dans les données qui nous sont transmises. Il y a toujours pas d'informations, par exemple, sur la dioxine ou les furanes, qui sont des molécules cancérigènes dont on est à peu près persuadé qu'elles sont présentes, parce que c'est typique de ce genre d'accident. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, on veut plus d'informations. La situation, elle est inquiétante et on veut pouvoir donner des réponses aux citoyens.
Ouais. La liste des produits qui ont brûlé a été publiée avec des propos rassurants à la clé. Ce que l'on ne sait pas, c'est ce que donne par exemple le mélange des produits brûlés.
Exactement. Le problème d'une combustion, c'est que ça va amener plein de réactions chimiques très compliquées. Et par exemple, regardez, une cigarette, c'est du tabac, c'est des plantes, c'est pas grave. Mais quand on l'allume, la combustion, elle va transformer toutes ces molécules et en faire des produits très toxiques. Évidemment, la cigarette est dangereuse pour la santé, vous le savez. Et ben, c'est la même chose pour un incendie de produits chimiques comme l'hubrisol, en pire puisque les produits de base sont plus toxiques.
Alors, comment vous voulez procéder avec la centaine de personnes de l'agglomération, des volontaires qui vont faire, si on a bien compris, des prélèvements?
Alors, on a donc ce recours en justice qui est donc appuyé par 99 citoyens avec Respire. Et en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est, puisqu'on n'a pas de réponse satisfaisante, c'est on va faire nous-mêmes nos prélèvements, nous-mêmes nos études. Donc, on va aller dans les jardins, dans les maisons, sur les parkings des gens, parce que les gens, ils ont des suies noires sur leurs fenêtres, des bouts de toit ou de peut-être amiantés dans leur jardin. Et ils ont donc plein de déchets chez eux, on va aller les prélever et faire nous-mêmes les tests. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est des tests sanguins, des tests biologiques pour savoir si ils n'ont pas absorbé, principalement au moment de l'incendie, des produits toxiques en forte quantité.
Et qu'est-ce que vous allez faire des résultats, les porter à la connaissance du public ?
Ah bien sûr, nous notre principe c'est on va justement agir dans la transparence la plus complète, et c'est aussi pour ça qu'on a cette action en justice, c'est on espère que l'expert indépendant va nous aider à obtenir plus d'informations et que comme on est une association citoyenne, nous permettre de le diffuser à tous les citoyens à Rouen. Et aussi à toute la France.
Cela dit, le nuage est parti très loin, mais plutôt parti vers le nord que le sud. On a bien compris, Olivier Blond de l'association Respire, vous réclamez plus de transparence et peut-être plus de rapidité, mais vous êtes quand même d'accord pour dire qu'on n'est plus dans la période de Tchernobyl quand on nous disait que le nuage s'arrêtait aux frontières, on n'en est plus là.
Alors, ce qui est étonnant quand on parle du nuage, c'est que, à ma connaissance, personne n'a pu jusqu'à présent fournir un itinéraire précis de ce nuage, donc pas le nuage de Tchernobyl, le nuage de Lubrizol, le nuage de Rouen, appelez-le comme vous voulez. Jusqu'où est-ce qu'il allait ? Il allait jusqu'en en Belgique, mais par où est-il passé ? C'est important pour tous les agriculteurs et toutes les personnes qui cultivent des choses et qui pourraient avoir été contaminées, ou évidemment pour les citoyens qui ont respiré peut-être un air toxique.
Eh bien, on va suivre vos prélèvements avec des volontaires. Ils se sont adressés à l'association Respire en disant « Moi, je veux bien faire partie des volontaires qui vont aller faire des prélèvements dans le jardin,
et si,
etc. »
Si des auditeurs veulent se joindre à nous, ils peuvent nous contacter par email et on essaiera d'être le plus nombreux possible.
Alors, à l'association Respire que vous présidez, Olivier Blond, je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de « Respirer, solution pour lutter contre la pollution de l'air » aux éditions Erol. Et si je ne m'abuse, c'est Yann Arthus Bertrand qui avait signé la préface.
Absolument.
Merci, bonne journée à vous.
Merci à vous.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.
Et aujourd'hui, à l'occasion du match France-États-Unis que nous avons vécu ce matin, le score c'était, Denis ?
Eh bien, on a mis 30 pions, plus de 30 pions aux États-Unis.
Pas mal. Nous rencontrons un ancien joueur du Stade Rochelet, grand collectionneur de maillots, il voudrait ouvrir un musée.
33-9.
Ah, bravo.
Il a une centaine de maillots en magasin, dont des curiosités comme un maillot blanc des All Blacks, toujours revêtus de noir comme leur nom l'indique.
Ensuite, on va faire les vendanges sur des vignobles antiques au nord de Vienne.
Là où des vignes existaient déjà à la période gallo-romaine avec un vin réputé.
Et puis on termine à Laval, où une opération de sensibilisation est menée par la ville pour inciter les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre.
Jeter un œil sur la statue de cigarette dans un bassin d'une place de Laval, elle est sur francebleu.fr.
Et puis une heure en français des jeux, il y a de très beaux cadeaux qui vous attendent. Et puis de la musique aussi. Ah, on commence avec ce titre qui résonne bien en 2019, je trouve, non ? C'est bien ?
Femme libérée ?
Femme libérée, vous l'avez reconnu, c'est Cookie Dingler sur France Bleu.
Elle est abonnée à Marie-Claire, dans Nouvelle Obs, c'est le lit que Brett est cher. Le monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée.
pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, non.
Et non, c'est pas si facile, hein, même en 2019. C'était Cookie Dingler sur France Bleu avec Femme Libérée.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Après France, États-Unis ce matin au Japon, le score, Denis Farou
33 à
9. Voilà le beau projet maintenant d'un ancien joueur de rugby de La Rochelle. Son projet, ouvrir un musée du rugby.
Oui, un ancien pilier du Stade Rochelais, passé aussi par Auch et Colomiers, collectionne des maillots d'internationaux depuis une vingtaine d'années et il aimerait bien en faire profiter tout le monde.
Il est avec nous depuis la Charente-Maritime et on imagine ce qu'il faisait ce matin. Bonjour Gaëtan Guillon.
Oui, bonjour.
Vous avez souffert, comme nous, pendant une bonne heure ce matin, avant de respirer ?
Oui, j'ai eu mal à mon rugby ce matin, ouais, un petit peu, ouais.
Ah ouais ?
Ça fait quelques mois, même, pour pas dire quelques années, que ça dure.
Ouais. Mais vous avez craint, voilà, à un instant, qu'il se passe une catastrophe ?
Non, du tout.
Ah bon ?
Non, après, j'essaye de pas douter, j'essaye d'être un peu chauvin, on va dire.
Vous avez regardé le match à la maison, ou avec des amis, ou...
Ah, alors à la maison, parce que du coup je suis assigné à résidence, là je me suis blessé à mon match dimanche, donc du coup je peux regarder la Coupe du Monde tous les matins sur mon canapé à la maison.
Ah, mais c'est le bon côté des choses.
Ah voilà, on va voir le bon côté.
Racontez-nous Gaëtan Guillon, quand est-ce que vous avez commencé à collectionner les maillots de rugby ?
Eh bien il y a très très longtemps du coup, quand j'ai commencé le rugby, donc j'avais 6 ans. 6-7 ans,
ouais.
Au stade et à l'époque, donc au stade Rochelet. Et à l'époque, à la fin, on avait le droit d'aller sur les terrains, donc on pouvait demander aux joueurs s'ils pouvaient nous donner des affaires de match.
Ouais.
Donc j'ai commencé, j'ai vu des chaussettes de German Yannès à l'époque, qui est un ancien joueur donc des années, donc il y a 25 ans. Donc
ouais.
Qui était international argentin. Après, j'ai obtenu le t-shirt d'entraînement de Jean-Baptiste Elissalde, un maillot du stade. Et puis, en fait, petit à petit, je récupérais des affaires comme ça, à gauche, à droite. Puis après, je suis parti, en fait, en pôle espoir, donc, pour le rugby, pour moi. Et je me suis mis, entre guillemets, en pause de tout ça. Mais je gardais quand même, malgré tout, tous mes maillots. Dès que je pouvais, j'ai gardé mes maillots. Et puis, lorsque j'ai arrêté par la force des choses, il y a 3 ans et demi, 4 ans, je suis retombé en fait sur un carton avec tous ces vêtements et des maillots dédicacés de Fabien Pelous notamment en 2001 après un match au Stade de France contre l'Angleterre. Voilà, pas mal de choses et du coup ça m'a redonné envie tout de suite de repartir là-dessus.
Gaëtan Guillon,
oui.
Vous avez parlé de chaussettes argentines, vous avez parlé de maillots français, vous n'avez pas parlé de ce fameux maillot blanc qui est quand même l'une de vos pépites.
Maillot blanc, alors j'en ai plusieurs des maillots blancs.
Alors moi je parlais du maillot blanc des All Blacks.
Ah, le maillot blanc des All Blacks, voilà. Donc voilà.
Et c'est énorme, ça.
Avec lequel ils ont joué en 2013 contre la France. Et c'est le maillot de Charlie Fomuna, le pilier du Stade Toulousain aujourd'hui, que j'ai mis quand même pas loin de 4 ans à obtenir.
Ah oui, quand même.
Alors l'idée, c'est de surtout pas les laver, les maillots. Hein. Vous voulez garder les taches de terre et de sang.
Voilà. Alors si possible, je peux les avoir dans leur jus, bah, tant mieux. Après, bah, parfois, il y en a qui les lavent, hein, parce que même il y a certaines équipes comme les Blacks, par exemple, souvent les maillots sont remis aux intendants, ils leur lavent les maillots et après ils récupèrent leurs maillots. Donc,
ouais. On imagine donc, les maillots souvent, quand même, hein, avec parfois une trace de crampon ou la sueur d'origine, ça doit être quelque chose.
Bah, faut les garder comme ça, ouais. C'est sûr.
Gaëtan Guillon, est-ce que vous étiez à Toulouse il y a quelques jours parce qu'il
oui.
y a eu une vente aux enchères de maillots?
Oui, bien sûr que j'y étais.
Et alors, vous avez fait une bonne pêche?
On l'attendait, celle-ci, donc oui.
Vous avez trouvé quelque chose?
Oui, je suis revenu avec deux maillots, j'en visais 6. Le problème étant qu'on avait eu vent un petit peu en amont de tous les maillots qui allaient se vendre. Il y en avait 812, je crois, de mémoire. Mais il y avait beaucoup de faux, beaucoup de contrefaçons, des choses comme ça. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir juger sur bouquin ou sur photo tant qu'on n'était pas sur place. Et en fait, le jeudi matin, en arrivant, je me suis rendu compte que sur les 6 que je visais, j'en avais que 2 où j'étais sûr à 100%. Et j'ai été sûr à 100% parce que j'ai demandé l'avis d'autres amis collectionneurs qui étaient présents aussi. Voilà, hein, une fois d'accord. qu'on a les maillots en main, s'il y a plus de facilité à se rendre compte de certaines choses.
Et vous êtes reparti avec ces deux-là ?
Je suis reparti avec les deux que je visais. Ah. Un maillot de Laurent Seigne de 1993 et de Richard Dourte de 1997.
Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. L'équipe de France, Dourte.
Le maillot de l'équipe de France.
Bien sûr. Vous avez, Gaëtan Guyon, vous avez déjà pris des contacts pour essayer d'ouvrir un musée de rugby à La Rochelle ?
Alors j'ai eu, notamment après il y a eu une interview à 15 jours avec France Bleu La Rochelle, justement. Oui. Qui m'a ouvert deux trois petites portes, on va dire. J'ai quelqu'un qui m'avait contacté pour me faire visiter un local. J'ai deux trois personnes qui m'ont approché pour justement essayer de m'aider eux à trouver des personnes qui veulent m'accompagner dans le projet, sachant que c'est pas un projet à but lucratif. L'objectif principal est vraiment de partager une passion et de partager des choses autour du rugby. Parce que je collectionne pas que les maillots, hein, bien sûr, autour du rugby, je collectionne tout ce qui va avec. Donc ça fait.
Gaëtan Guyon, vous cherchez quoi aujourd'hui, des soutiens financiers pour parler clairement?
Voilà, soutien financier, donc soutien financier, un dépôt, s'il y a des gens par exemple qui ont des dépôts dont ils ne savent pas quoi faire, parce que malheureusement ça arrive et il y en a qui veulent pas s'embêter avec de la location ou qui ont tout simplement pas envie de vendre. Voilà, moi je suis ouvert à toutes les propositions. Après on peut parler, il y a plein de possibilités, hein. Faut juste pouvoir parler, se poser et se dire que c'est un projet qui prend du temps, puisque c'est quelque chose qui, pour mettre à plat, ça demande beaucoup de réflexion. Il y a pas mal de choses à mettre en place au sein d'un musée, notamment tout ce qui est sécuritaire et tout ça, c'est très important.
Il y a du boulot, mais on est vraiment ravis de vous aider. En tout cas, Gaëtan Guyon, moi j'ai une dernière question, elle est un peu personnelle, mais vous m'avez dit que vous avez commencé le rugby à 6 ans. Mon neveu aussi, est-ce que si vous aviez un conseil à lui donner quand on commence à cet âge-là le rugby, c'est quoi ?
De prendre que du plaisir, tout le temps.
Je pense qu'il est bien parti.
Le maître mot, c'est de prendre du plaisir et qu'aujourd'hui, pour avoir des enfants et avoir vécu un peu le truc, à partir du moment où on impose aux enfants certaines choses, je pense qu'à ce niveau-là, après, les enfants prennent plus trop de plaisir et c'est de là que l'amour qu'ils peuvent avoir au départ pour le rugby peut être un peu entaché, on va dire. Mais voilà, tant qu'il prendra du plaisir à aller au rugby et qu'il fera les choses... qu'on lui apprend, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes.
Ben, très bien, on appellera votre neveu dans 30 ans pour vérifier s'il veut ouvrir un musée du rugby.
À mon avis, oui.
Merci Gaëtan Guyon, on a envie de dire bravo et merci à France Bleu La Rochelle qui joue un peu les intermédiaires pour ouvrir un musée du rugby.
Et merci à vous d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Une Heure en France. On a hâte de venir visiter le musée à La Rochelle, Gaëtan Guyon.
Eh ben, ce sera avec grand plaisir.
Merci beaucoup et bonne Coupe du Monde à vous alors. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Et nous, on joue pour un casque audio Bluetooth. Pas besoin de rugby, hein, pas besoin de placage, juste répondre à ma question. Dites-nous quel est le capitaine de l'équipe de rugby, le capitaine de l'équipe de France de rugby.
Vous parlez du match d'aujourd'hui.
Oui, exactement. Pour la première fois, à 33 ans. Bon, allez, j'arrête de vous aider. Vous nous appelez au 0810 055 056. Vous poursuivez avec nous dans Une Heure en France. Beaucoup de choses à venir. Shawn Mendes, Señorita pour le moment. Et puis juste après, on va faire des vendanges antiques. Ça se passe à Vienne. Et puis on va terminer à Laval avec une statue un petit peu étrange. On vous en dira plus dans Une Heure en France. Like a Shawn Mendes et Camila Cabello avec Señorita sur France Bleu pour rejoindre José. Bonjour José. José, bonjour.
Oui, bonjour.
Où êtes-vous José? Parce qu'on a des informations contradictoires. Le Roussillon, oui, la Normandie.
Voilà.
Vous
Canet
êtes
en Roussillon.
Canet en Roussillon, à Canet-Plage, voilà. Précisément.
Canet-Plage, voilà, c'est ça.
D'accord, très bien José. Et qu'est-ce que vous faites de beau à cette heure-ci José?
Ben là, je suis en train de déjeuner là.
Vous mangez quoi?
Je mange une tranche de jambon Dior et une salade et voilà.
Oh, c'est léger.
C'est léger, oui.
Ouais. Voilà. Vous avez regardé le match ce matin?
J'ai regardé la première mi-temps et.
Aïe, pas la bonne.
La deuxième mi-temps, je ne l'ai pas regardé. J'ai dû partir à la maison et.
Non, bon, vous étiez dégoûté, José, de la façon de jouer des Français. C'est pour ça que vous avez coupé la télé.
Bon, ils ont gagné 33-9. Hein.
Voilà, il n'y a que les résultats qui comptent.
Voilà, ça c'est bien. Vous avez raison. Bonne philosophie, José. Voilà. Alors, justement, je vous demande quel est le capitaine de cette équipe de France.
Picamol.
Oui, voilà. Picamol, effectivement, Louis Picamol, c'est la bonne réponse. On vous envoie le casque audio Bluetooth, José.
Ah, le casque Bluetooth.
Non, le Bluetooth. Denis le dit mieux que moi, le casque
Bluetooth.
Voilà, sans fil en fait.
Pas le casque de rugby.
Non.
Hein. non, le casque pour écouter de la musique sans fil en fait. Hein. On se la raconte un peu avec Bluetooth, mais enfin c'est juste sans fil.
Ouais.
Voilà, en fait, hein, pour résumer José. Donc ouais. On vous souhaite quoi pour cet après-midi?
Eh bien, je vais faire un peu de vélo, là. Je vais à Saint-Cyprien, là.
Pour digérer la tranche de jambon bio.
Voilà, c'est ça, oui.
Bon, alors, bon appétit, bon vélo et plein de gros bisous, José.
Oui, vous aussi.
Merci.
Et bonne journée.
À bientôt, au revoir, José.
À bientôt.
Au revoir. Une heure en France, ça continue. On va bientôt partir faire des vendanges. Mais j'ai une nouvelle avant cela à vous annoncer avec les Restos du Cœur, même plusieurs nouvelles. Il y a une exposition au cœur des spectacles des Enfoirés avec France Bleu, ça c'est dès le 28 novembre au pavillon de la Villette à Paris. Si vous êtes de passage à Paris, pourquoi pas aller voir cette expo pour vivre l'ambiance des coulisses des différents shows, les costumes, les décors, les images exclusives. Il y a aussi une vente aux enchères en ligne, une vente aux enchères inédite d'objets emblématiques des Enfoirés. Là aussi, il y a un accessoire, costume, élément dédicacé par la troupe des Enfoirés. Et puis alors attention, ça c'est l'info à retenir absolument, c'est que la billetterie est en ligne, la billetterie des concerts. Elle ouvre le vendredi 18 octobre à 9h en magasin.
Incroyable.
Et dès 10h en ligne. Et attention, ça s'appelle le spectacle Paris des Enfoirés. Ce sera le titre du spectacle 2020 pour lequel les Enfoirés se sont donné rendez-vous du 15 au 20 janvier.
Mais comment vous savez tout ça?
De tête, hein. Du 15 au 20 janvier 2020 à l'Accor Hôtel Arena. J'espère que vous avez retenu quelque chose de ce que je viens de vous dire. S'il y a quelque chose à retenir, c'est bien que le rendez-vous, c'est du 15 au 20 janvier 2020 à l'Accor Hôtel Arena et que la billetterie sera en ligne à partir du 18 octobre.
France Bleu.
S'il suffisait.
Céline Dion. La voix. Les succès. L'attente est terminée. Courage. La tournée mondiale de Céline Dion avec France Bleu à Paris La Défense Arena les 26, 27, 30 juin et 1er juillet. Réservation dès le 9 octobre dans les points de vente habituels. Céline Dion en concert France Bleu avec M6 et BFM TV. Plus d'infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu M, Boulevard des Airs et Vianney.
Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
Boulevard des Airs et Vianney, un coup de cœur France Bleu.
Mes trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle.
On les entend régulièrement dans L'Aventurier aussi sur France Bleu.
Trois jours par semaine, on les entend.
Oui, trois nuits par semaine.
Trois nuits par semaine.
Indochine à 13h36.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et nous nous arrêtons maintenant à moins de 30 km au sud de Lyon, là où se trouve le vignoble Vitis Viena.
Son origine remonte à l'époque romaine et il doit sa renaissance à un groupe de vignerons. Ça date d'il y a une vingtaine d'années.
Alors on va arpenter les 45 hectares du domaine avec le propriétaire, l'un des propriétaires et président de l'association Vitis Viena. Bonjour Stéphane Augier.
Bonjour.
Vous êtes en pleine vendange en ce moment ?
Exactement, on est sur la dernière ligne droite. Voilà.
Vous êtes dans les vignes à l'heure actuelle où vous nous parlez ou pas du
exactement,
tout à la maison?
Non, je suis dehors, je suis entre les vignes, la cave, je fais des allers-retours, voilà.
Vous voyez le Rhône d'où vous êtes?
On est à côté du Rhône, bien
bah
sûr.
Ouais. Vous avez sorti de l'oubli un vignoble qui existait à l'époque gallo-romaine, il restait quelque chose ou vous avez retrouvé l'emplacement?
Alors, il restait les terrasses, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chaillets, les terrasses en mur de pierre sèche, mais qui étaient envahies par les ronces. Et à l'époque, bon, moi j'ai suivi le mouvement très vite derrière, mais c'est trois vignerons assez réputés de la vallée du Rhône qui ont eu l'idée d'aller replanter les vignes sur le secteur.
Et ces vins, ils étaient loués par les auteurs antiques, c'est incroyable.
Oui, c'est ce qu'on appelait à l'époque les vins du Viennois, avant qu'il y ait des appellations. Mmh. Et ils avaient déjà eu l'idée de planter les coteaux pour produire les meilleurs vins. Et ils faisaient déjà même à l'époque des classements sur les meilleures parcelles, quoi, qui donnaient les plus beaux vins.
Ah oui, il y avait des guides peut-être déjà à l'époque.
Alors à l'époque, mais on a retrouvé sur des historiques, alors peut-être pas aussi loin que à l'Antiquité, mais... on a retrouvé forcément des écrits d'avant le phylloxéra qui nous expliquaient un petit peu les meilleurs coins, oui, effectivement. Et c'était écrit que justement, bon, le vignoble de Sissua qui se trouve juste en face des côtes rôties était même apparemment planté avant le vignoble de côtes rôties.
Vous, Stéphane Augier, justement, vous faites du côtes rôties de l'autre côté du Rhône. Est-ce que vous travaillez le Vitis Viena sur des terrains aussi escarpés que le côtes rôties?
Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis originaire, j'ai grandi en côtes rôties et c'est vrai que j'ai traversé le Rhône pour aller voir ce qui se passait en face. Mais c'est vrai qu'on retrouve exactement la même configuration de vignoble.
Vous parliez du phylloxéra il y a quelques instants, donc c'est la maladie qui a tué cette vigne, et c'était il y a combien de temps?
Alors le phylloxéra, ça date de fin 19e, et ça a tué les vignes tout en Europe, hein, pas seulement dans la vallée du Rhône, mais ça a vraiment fait disparaître une très très grosse partie des vignobles français. Oui.
Stéphane Augier, quels sont les cépages que vous avez plantés du coup?
Donc en fait, les cépages qui sont cultivés sur les coteaux de Sessuel sont la Syrah et le Viognier, qui sont les cépages de la vallée du Rhône-Nord, les cépages rois du côte rôtie, l'Hermitage.
Et les vins ont des noms de l'époque gallo-romaine?
Oui, alors les pionniers qui sont allés replanter les vignes là-bas, c'était en 1996, qui sont les vignerons Cuiron, Gaillard et Villard, à qui on doit vraiment la renaissance du vignoble là-bas, se sont inspirés justement des écrits qu'ils avaient retrouvés pour le nom des premiers vins qu'ils ont produits, à savoir le Sautanum notamment. Et après, derrière, les vignerons qui ont suivi l'aventure, comme moi par exemple, une partie de ces vignerons-là ont aussi eu l'idée d'utiliser ou non des noms romains, quoi.
Voilà. Vous avez un exemple ou deux là que si on croise une bouteille un jour, on saura
croiser une bouteille.
L'origine, oui, bah vous avez Sautanum qui est vraiment la première cuvée de la Renaissance des vins de Sessuel. Ouais. Après, vous avez Saxéulum par exemple. Vous avez Serinae. Voilà, ça c'est les noms un petit peu latins. Et puis après, vous avez d'autres noms comme moi, par exemple, mon vin, je l'appelle l'âme sœur.
Donc, ouais, voilà, c'est joli.
J'ai pas suivi le l'âme nom latin, mais moi ça me paraissait un petit peu logique d'utiliser un nom qui me rappelait un petit peu mes origines d'en face, en Côte-Rôtie, puisque on retrouve non seulement la même configuration de terrain, mais là ce qui est vraiment superbe justement sur ces terroirs-là, c'est qu'on retrouve des vins qui ont une identité à la fois indépendante, mais très similaire de ce qu'on peut retrouver sur Côte-Rôtie, notamment dans la finesse et la complexité des vins.
Un vignoble gallo-romain sorti de l'oubli entre Lyon et Vienne dans la vallée du Rhône avec le président de Vitis Viena.
Et on vous souhaite l'AOP prochainement. et
oui,
puis bah, surtout bonne vendange.
Oui, on y travaille depuis longtemps et on un peu comme maintenant là sur la on est sur la dernière ligne droite des vendanges. Je pense que sur l'AOP, on est sur la dernière ligne droite aussi. On devrait l'avoir d'ici peu, je pense.
Eh bien, on croise les doigts pour tout ça.
Stéphane Augier.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Et nous jouons pour une clé USB. Pas n'importe quelle clé USB, non, non, non.
Quel est le nom du capitaine de l'équipe de France de rugby ?
Mais non, ça c'était tout à l'heure. Alors, j'étais sur la clé USB, pas n'importe laquelle. Pourquoi, à votre avis ?
Elle est Bluetooth.
Ah, c'est dur hein, tous les jours, hein, Denis Farou. Non, elle est lourde, elle a beaucoup de mémoire. Elle a 16 gigas de mémoire, donc c'est beaucoup pour stocker vos photos, vos vidéos, tout ce que vous souhaitez. Et donc, rien à voir avec le rugby, on reste sur une question autour de la vigne. Le Vitis Vienna, donc Stéphane Augier nous a expliqué qu'ils avaient planté du Syrah comme cépage pour le vin rouge. Quel est le cépage blanc ? Il nous l'a dit, c'est pas facile. Vous nous appelez 0810 055 056, le temps d'écouter les Beatles. Pour la bonne réponse, on se retrouve juste après. Ça se termine comme ça, avec un petit peu de guitare. Quatre garçons dans le vent, les Beatles, évidemment, vous les avez reconnus. A Hard Day's Night. A Hard Day's Night. Oui, c'est ça, ça sonne comme ça. Véronique, bonjour, bienvenue à vous.
Oui, bonjour, bonjour France Bleu.
Vous nous appelez de Lorraine, Véronique.
Exactement.
Où ça, en Lorraine ?
À Nancy.
Très bien, on voit, très bien, Nancy. Véronique, un petit point météo, du coup. Quel temps fait-il à Nancy aujourd'hui ?
Oh, il fait tout gris, tout moche, il pleut.
Oh, et du coup, vous êtes au boulot ou vous êtes sous la pluie ?
Oui, oui, c'est un bon temps pour travailler quand il fait moche. Comme
ah, on a en plus envie d'y aller, hein, bizarrement.
Oui.
Il fait 14 degrés chez vous.
Exactement, on peut rien vous cacher.
Bah, non. Non, mais Véronique, je ne peux pas vous dire, hein, Denis sait tout, presque omniscient, Denis Farou. Véronique, la clé USB, ce serait pas mal pour mettre les photos de vacances, tout ça ?
Oh, super.
Alors, j'avais une question. Les vignerons hein, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, Stéphane Augier de Vitis Vienna, ont planté du Syrah, cépage Syrah pour le vin rouge. Et quel cépage pour le vin blanc ?
Alors, pour le blanc, c'est du Viognier.
Viognier, ouais, tout bravo. À fait, Véronique, bravo. Vous avez bien écouté. C'est fou, on a envie de le goûter, ce vin. Hein.
Ah oui, exactement.
Et oui, c'est quand même ça excite notre curiosité. Bon, avec
c'est
modération,
le moins que l'on puisse dire, hein.
Évidemment.
Mais on n'a rien goûté.
Non, mais non. Véronique, on vous envoie la clé USB et on vous dit bon courage pour le boulot. Vous faites quoi dans la vie, Véronique ?
Je suis commerciale, donc je suis pas mal sur la route.
Ah, donc c'est pour ça que vous avez la joie de nous écouter de temps en temps en voiture.
Exactement, c'est facile.
Bon, bah, très bien. Bah, merci de votre participation aujourd'hui.
Eh ben, merci à vous et merci à tout le monde et aux auditeurs de France Bleu.
À bientôt, bonne route Véronique.
Merci, au revoir.
Au revoir. J'ai des choses à vous dire. Vous reconnaissez cette musique. Les Restos du Cœur avec France Bleu, des informations sont tombées. Alors, le spectacle va s'appeler le Paris des Enfoirés, spectacle 2020. On se donne rendez-vous pour ce spectacle du 15 au 20 janvier prochain à l'Accor Hotel Arena à Paris. Ne vous jetez pas tout de suite sur le téléphone, l'ordinateur, parce que la billetterie des concerts, elle ouvre seulement le vendredi 18 octobre. Retenez bien cette date, à 9h en magasin et dès 10h en ligne. D'autre part, une exposition au cœur des spectacles des Enfoirés va se dérouler dès le 28 novembre au pavillon de la Villette à Paris. Donc pourquoi pas aller la découvrir si vous êtes de passage à Paris. Et une vente aux enchères en ligne inédite d'objets emblématiques des Enfoirés va se dérouler. Vous avez rendez-vous là aussi du 28 novembre au 29 décembre. N'oubliez pas, France Bleu est partenaire officiel des Restos du Cœur.
Chanson a le pouvoir de faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter. Alors il faut. Une chanson peut se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle sait allumer une flamme dans le noir. Alors il faut chanter. Alors il faut chanter.
Oh!
musique adoucit les mœurs. Florent Pagny ne dira pas le contraire. Si une chanson s'est extraite de son 19e album, qui s'appelle tout simplement « Aime la vie ».
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farroux sur France Bleu.
Les habitants de Laval ont peut-être été surpris de découvrir des cigarettes géantes sur la fontaine de la place du 11 novembre dans le chef-lieu de la Mayenne.
Imaginez une douzaine de cigarettes géantes déposées sur les rochers au milieu du bassin du jet d'eau, comme un radeau de mégots que l'on peut voir sur francebleu.fr.
C'est une idée de la jeune chambre économique de Laval avec la ville pour inciter les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre. Et c'est un membre de la commission mégots de la jeune chambre économique qui nous parle de cette campagne. Bonjour Émilien Tréhé.
Bonjour.
Ça existe une commission mégots ?
Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, il y en a plein. En fait, à Laval, on a appelé ça mégots responsables. Mais l'origine se trouve il y a quelques années à Nantes, dans une opération menée aussi par la jeune chambre économique née de Nantes, qui s'appelait Zéro Mégot. Et maintenant, il y a une cinquantaine de jeunes chambres partout en France qui, depuis ces 2-3 dernières années, ont repris le sujet.
Est-ce que vous avez surpris avec votre initiative ? Est-ce que vous avez eu droit à des questions, à des remarques de Lavallois ?
Ah oui, pas mal. Ne serait-ce que pendant qu'on était en train d'installer le radeau en pleine nuit, on s'est un petit peu interpellé par les passants. Mais moins qu'on l'aurait cru. Mais beaucoup, en fait, sont venus nous voir. Et surtout, ce qui nous a surpris, c'est qu'on a eu tout un groupe de jeunes qui sont venus lire les affiches, parce qu'autour du radeau, on a mis d'autres cigarettes géantes avec des affiches explicatives, et qui, en fait, se sont mis à lire et ont vu le nom mégots responsables et nous ont dit qu'ils connaissaient. Parce qu'on avait déjà mené une opération en juin lors de la braderie et des OFNIZA qui sont une course de radeau sur la Mayenne, où on avait mis une cigarette géante de 6 mètres de long et ce fameux radeau pour interpeller par l'art sur le fait de jeter son mégot partout. Et donc du coup, en fait, voilà, on avait des personnes comme ça qui se souvenaient de cette opération-là, qui avaient déjà eu un impact et qui avaient commencé aussi à voir les affiches dans la ville, puisque le radeau qu'on a mis au milieu de la fontaine, qui est aussi couplé à une opération d'affichage. On a deux affiches qui sont mises sur une quarantaine de points de présence dans la ville. La première étant quelqu'un qui écrase son mégot par terre, donc avec un slogan, ce geste qui fait de vous...
Une ordure.
Une ordure, voilà.
Je connais.
Et une deuxième qui rappelle que jeter son mégot peut coûter gros, à savoir 68 euros. Et donc voilà, on a ces différentes opérations groupées. Le but, c'est vraiment de sensibiliser ceux qui jettent leur mégot sur le fait que, parce que c'est un geste assez facile, mais finalement, c'est un geste que la plupart des fumeurs, quand ils l'ont involontairement. Et donc, le but, c'est essayer d'initier une démarche.
Émilien, je vous coupe un peu, pardon, mais vous fumez, vous êtes fumeur ?
Non, je ne suis pas fumeur.
D'accord.
Donc... Et dans votre entourage, il y a des fumeurs ?
Oui.
Et comment ils ont vécu la chose à Laval ?
Voilà.
Alors beaucoup vont être un petit peu dans le déni. Non, je jette pas mon mégot.
Oui. Mais bien
sûr. Parce que c'est pas forcément évident d'assumer, de jeter son mégot quand on a quelqu'un qui vient vous en parler et vous dire bah voilà, c'est un geste qui pollue. Moi, on s'est rendu compte aussi en fait qu'il y en a qui pensent tout simplement que c'est pas polluant, que c'est du coton.
C'est biodégradable, ce genre de choses qu'ils vous disent.
Alors qu'en fait, c'est du plastique, ça met plus de 12 ans à se dégrader et c'est chargé d'énormément de polluants. Et donc, tout simplement, on a aussi, j'en ai pas encore parlé, mais fait un marquage sur les plaques d'égout indiquant que ici commence l'eau potable, et donc avec un logo interdiction de jeter son mégot.
Mais plutôt que tous ces objets de sensibilisation, pourquoi pas mettre plus de cendriers ?
Alors ça, c'est la dernière action. En fait, on a fait un partenariat avec un fabricant mayennais de cendriers. Et donc, on est en train de vendre à des entreprises des cendriers pour tout simplement équiper aussi un maximum d'endroits non publics. Et cette opération de vente de cendriers aux entreprises va permettre de financer un certain nombre de cendriers pour les rues de la ville.
D'accord.
On a découvert l'utilité des commissions mégots avec la jeune chambre économique de Laval. Merci Émilien Tréhé.
Merci de nous avoir expliqué. On souhaite que du coup les fumeurs soient plus raisonnables à Laval et ailleurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée. Au revoir. Vous avez compris, faites attention. Et puis surtout, c'est vrai que c'est mieux pour l'écologie, la planète. Ça interpelle ces cigarettes géantes quand même sur la place de Laval.
68 euros l'amende.
Ah oui, place du 11 novembre, ces cigarettes géantes. Allez les voir sur francebleu.fr, ça ne laisse pas indifférent. Kylie Minogue pour refermer cette heure passée ensemble en France. Oh, je vais devoir dire le titre, allez. Can't get you out of my head. Je m'entraîne
le
temps qu'elle chante.
Pas.
Ouais, je m'entraîne, après je reviens. Allez Denis, c'est à vous que je vais demander de désannoncer ce titre que j'arrive vraiment pas à prononcer.
Alors pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout votre jeu.
Ah ben, je vous remercie de cette aide. Ben, c'est une bonne entente entre nous, ça fait plaisir, donc je vais le faire. C'était Kylie Minogue sur France Bleu. Voilà, donc je vous demande pas ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que si ça se trouve, vous n'allez pas vouloir me répondre.
Pas du tout, Gaëtan Guyon a eu mal à son rugby ce matin en regardant France-États-Unis, mais l'ancien pilier du stade de Rochelet prépare son musée du rugby.
Ensuite, on a fait des vendanges façon antique, Denis, aujourd'hui.
On a goûté, alors soyons précis, de manière virtuelle, un sotanum de Vitis Vienna, cultivé près de Vienne à l'emplacement de vignes gallo-romaines.
Et ils souhaitent obtenir l'AOP, apparemment c'est pour bientôt. Ils sont en pleine vendange, c'est vrai que ça rend curieux, hein, cette histoire de vieilles vignes antiques du côté de Vienne.
Sur des terrains escarpés, juste en face du côte rôti, de l'autre côté du Rhône.
Et puis on a terminé avec des mégots à Laval.
Un radeau de cigarettes géantes à Laval, mis en place par la commission mégots de la jeune chambre économique de Laval.
Il y aura aussi des cendriers, hein, c'est prévu dans les jours à venir. On revient demain, Denis, à 13h.
À demain. France Bleu.